Radio Éthique vous propose une info durable réalisée par Stéphanie Reynaud.
Le drame de la surpêche, c'est le thème qui a réuni à la fin de l'été l'association Océan 2012 et SOS Grand Bleu. Au programme de cette journée de sensibilisation, la projection gratuite du film The End of the Line, l'océan en voie d'épuisement, de Charles Clover et Rupert Murray, l'un des premiers longs métrages à dénoncer les méfaits de la surpêche. Océan 2012 a de son côté réalisé pour les Semaines européennes de la pêche un petit film d'animation pédagogique dont voici un extrait.
La Terre. À l'heure actuelle, 7 milliards d'individus vivent sur 30% de sa surface. Et toutes ces personnes dépendent des 70% restants, l'océan. L'océan est la source de nourriture la plus importante au monde. Le poisson constitue le principal apport quotidien en protéines pour 1,2 milliard d'habitants. Mais de plus en plus de pêcheurs rentrent avec des filets vides. Revenons un peu en arrière. Certains scientifiques affirment qu'au cours des 60 dernières années, les stocks de gros poissons ont baissé de 90%. Ils nous avertissent du déclin probable de toutes les espèces pêchées dans moins de 50 ans. La cause principale, la surpêche. Les palangriers déploient 1,4 milliard d'hameçons par an, chaque appât étant garni de morceaux de poisson. Certains chalutiers jettent des filets d'une superficie pouvant atteindre jusqu'à 23 000 mètres carrés, la taille de 4 terrains de football. Assez pour contenir 13 Boeing 747, ou d'ordinaire, plus de 500 tonnes de poisson. Ces 500 tonnes de poisson comprennent de nombreuses prises accessoires, c'est-à-dire des créatures marines capturées accessoirement, souvent en grande quantité. Généralement, les chalutiers à crevettes rejettent à l'eau entre 80 et 90% de ces animaux. Ceci signifie que, pour un kilo de crevettes, on capture et gaspille jusqu'à 9 kilos d'organismes marins.
Après la projection du film The End of the Line, le public était invité à débattre en présence de personnalités diverses, parmi lesquelles Michèle Rivasi, députée européenne, membre d'Europe Écologie Les Verts, elle réagit au sujet des fameux quotas de pêche européens.
Plusieurs fois dans le reportage qui est super, hein, on appelle les élus en disant il faut qu'ils réagissent et ils fassent notamment voter les quotas. Alors vous savez qu'il y a une réforme européenne par rapport à la politique de la pêche où le commissaire, c'est une femme qui est commissaire, c'est Maria Damanaki, qui veut justement que ces quotas soient respectés. Le Parlement européen veut que les quotas soient respectés parce qu'il ne faut pas oublier que l'Europe c'est quand même un triptyque, hein, c'est trois parties. Il y a le Parlement européen, avec plusieurs partis politiques, il y a la Commission, et puis il y a le Conseil des ministres. Le Parlement, il est d'accord pour les quotas, quels que soient les partis politiques. Parce qu'on sent très bien que la nature est finie, et non pas que le monde est infini. Hein, parce que quand on voit ces quantités de poissons, et pourquoi l'information ne passe pas plus, c'est que si on expliquait aux gens, c'est pour ça qu'il faut s'en servir comme outil pédagogique, si on expliquait aux gens que nos choix de consommateurs ont une répercussion par rapport à la quantité de poissons, mais aussi les lobbies. Parce que quand on voit, c'est du business les poissons, quand on voit le poids des Japonais, le poids des Russes, le poids des Coréens, et au niveau de l'Europe, qui est important sur la pêche? Mais il y a la France, il y a le Portugal, il y a l'Espagne, il y a l'Angleterre, et puis quelques petits autres pays, mais c'est surtout ces quatre-là. Et alors, le Parlement, ok, la commissaire, elle veut faire respecter les quotas. Pourquoi? Parce qu'elle se dit, si les quotas ne sont pas respectés dans le film, on le voit bien, c'est l'avenir qui est mis en jeu. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus d'espèces et de ressources halieutiques, et après on va pleurer parce qu'on ne trouvera plus de thon, on ne trouvera plus, déjà on l'a vu au niveau du Canada, de morue, etc. Et on est à une vision court-termiste, et un politique doit avoir une vision à moyen et long terme, et notamment l'Europe à ce niveau. Et pourquoi ça bloque? Eh bien, c'est au Conseil des ministres que ça bloque. C'est les États qui bloquent. Parce que la France, elle a bloqué pendant très longtemps. Parce qu'elle disait, si on accepte les quotas, on va avoir des manifs de pêcheurs terribles. Et comme ils sont des politiques, ils disent « Ah ben, on ne veut pas affronter ces manifs, on ne veut pas affronter le vote des électeurs. » Et c'est pour ça qu'il faut pousser les États pour dire « Non, là, il y a une responsabilité collective. L'océan est un bien public. » C'est comme l'eau. Hein, on se bagarre sur l'eau, bien public. L'océan est un bien public. Ce n'est pas une propriété de certains. Parce que là aussi, il y a un problème social, c'est qu'il faut anticiper. C'est-à-dire qu'il faut aller voir les pêcheurs. Et les petits pêcheurs, ce n'est pas un problème. Les pêcheurs artisanaux. Le gros souci, c'est que c'est ces bateaux-usines qui sont souvent, nous en France, parce que moi j'avais fait une étude en France, qu'est-ce qu'il y a derrière? Il y a souvent la grande distribution. Il y a Super U, il y a, vous voyez, c'est la grande distribution qui est derrière ces gros bateaux.
Pour soulager la pression exercée sur les poissons sauvages, 47% de notre consommation provient d'élevage. Mais l'aquaculture marine est davantage une menace qu'une solution. Beaucoup de poissons d'aquaculture sont carnivores, c'est-à-dire qu'ils mangent d'autres petits poissons. Il faut 5 kg de poissons sauvages pour produire 1 kg de saumon d'élevage. L'aquaculture ne fait que transformer de petits poissons à faible valeur commerciale en espèces plus lucratives. Cela ne crée pas de poissons supplémentaires. La majorité des stocks européens de poissons sont surexploités. Traditionnellement, les ministres européens fixent des quotas de pêche supérieurs aux recommandations scientifiques. En 2008, ils en avaient déterminé pour la pêche très prisée du thon rouge. Les scientifiques avaient recommandé des quotas de 10 000 tonnes permettant de renouveler les populations. Pourtant, l'Union européenne et les autres nations pêcheuses ont fixé des quotas de 29 500 tonnes, soit trois fois la limite suggérée. Ainsi, malgré ce taux déjà très élevé, 61 000 tonnes de thon rouge ont été capturées, six fois plus que les recommandations. Des milliards d'euros de subventions publiques alimentent cette surpêche. Si cela continue, il n'y aura bientôt plus de poissons. Comment en finir avec la surpêche? C'est à vos représentants politiques à Bruxelles qu'il incombe de prendre des décisions pour l'éradiquer. Les citoyens, eux, ont la responsabilité de les encourager et de leur apporter leur soutien dans leurs efforts.
Quand vous avez un restaurateur qui vend du thon rouge, ben il faut lui dire. C'est comme quand quelqu'un a un manteau en fourrure léopard, quoi. Hein, qu'est-ce qu'on dit à ces femmes? On dit, mais attends, c'est quel cadavre tu as sur le dos? Enfin, je m'excuse, mais à un moment, si on peut faire bouger les choses, il faut quand même... Il y a du thon rouge, c'est pas normal que vous vendez du thon rouge. C'est une espèce protégée. C'est comme, vous savez, quand... Moi, je vais beaucoup en Afrique parce que je suis président de la commission sociale environnement, ACP, c'est Afrique, Caraïbes, Pacifique. Donc, tous ces problèmes de pêche, on les aborde avec les pays africains. Quand il y a eu l'histoire du Sénégal, on a eu l'histoire de la Mauritanie, du Maroc, etc. Et comme c'est du business, les pays leur laissent leur zone économique, vous voyez, les 2000 miles où les bateaux peuvent venir parce qu'il y a moyennant finance. Et avec cette finance-là, ils payent leurs fonctionnaires, ils se payent eux aussi. Et on voit les petits pêcheurs que je rencontre, ils n'ont pas d'eau. Et quand je vois les ministres, je leur dis, vous n'êtes pas logique. Vous récupérez le fric des bateaux européens, et puis en même temps, vous, vous ne donnez pas les moyens à vos pêcheurs pour justement récupérer le poisson et nourrir leur famille et au-delà. Ce n'est pas simple. Un, il faut que les politiques, et notamment les États membres, fassent leur boulot pour faire respecter les quotas en accompagnant les pêcheurs. Parce qu'il ne s'agit pas de dire, vous voyez, les choses sont toutes blanches, toutes noires. Les pêcheurs, ils ont aussi, il faut anticiper leur reformation et en même temps, il faut arrêter avec ces bateaux-usines terribles qui vous labourent des fonds. En quelques jours, ils font ce que les pêcheurs font dans les années d'un point de vue prise, d'un point de vue transformation du poisson, etc. Et le pouvoir et la prise de conscience passera par l'information. Mais en même temps, je tiens à remercier tous ces lanceurs d'alerte parce que s'il n'y avait pas des gens, hein, comme on a vu dans le film, comme on a ici, qui lancent l'alerte en disant « Attention, notre avenir est en jeu », eh bien, on ne serait pas tous là et on ne se battrait pas pour notre avenir. En tout cas, moi j'y crois, je me bats tous les jours, je peux vous dire que ce soit sur le nucléaire, que ce soit sur les poissons, que ce soit sur les pesticides, les perturbateurs endocriniens, parce qu'on défend la génération future et on défend notre planète qui est extraordinaire. Et pour ça, bah, il faut qu'on soit fort. Et vous ne pouvez pas vous imaginer quand on est informé comment on peut être fort.
L'information, c'est bien elle qui fait défaut lorsqu'on est en présence de lobbies économiques et politiques. Traduit depuis peu en français « The End of the Line, l'océan en voie d'épuisement » de Charles Clover et Rupert Murray, un film à voir et à revoir.
C'était une interview réalisée par Stéphanie Reynaud.